La conférence annuelle de décembre 1959 se tint à Durban, pendant les manifestations contre le pass qui avaient lieu dans la ville. La conférence vota à l'unanimité l'organisation d'une campagne massive contre le pass. Elle aurait lieu dans tout le pays et commencerait le 31 mars pour s'achever le 26 juin avec un immense feu de pass. L'atmosphère du pays était assez sombre. Le gouvernement menaçait d'interdire l'organisation et des ministres prévenaient l'ANC qu'on l'écraserait bientôt à main nue. Au début d'avril 1959, une nouvelle organisation fut créée, le Pan-Africanist Congress, PAC, qui rejetait expressément la dimension multiraciale de l'ANC. Le PAC et son leader, Robert Sobukwe, pensaient que l'ANC n'était pas suffisamment militant, n'avait plus de contact avec les masses et qu'il était dominé par des non-africains. Mais en décembre, le PAC semblait perdu. Ce n'était qu'une direction en quête de partisans et ses responsables cherchaient à lancer une action qui leur donnerait une existence sur l'échiquier politique. Ils étaient au courant de la campagne de l'ANC contre le PAS et avaient été invités à y participer. Mais au lieu de nous donner la main, ils tentèrent de nous saboter en annonçant qu'ils lançaient leur propre campagne contre le PAS le 21 mars, 10 jours avant le démarrage de la nôtre. À Johannesburg, la réponse à l'appel du PAC fut très peu importante. Il n'y eut aucune manifestation à Durban, à Port Elizabeth ou à East London. Mais à Everton, Z.B. Molete, très bien secondé par Joe Molefi, réussit à mobiliser tout le township et plusieurs centaines d'hommes se présentèrent au commissariat sans passe pour se faire arrêter. La ville du Cap vit une de ses plus importantes manifestations contre le passe de son histoire. Dans le township de Langa, près du Cap, quelque 30 000 personnes se rassemblèrent et une charge de la police déclencha une émeute. 2 personnes furent tuées. Mais le dernier endroit où eut lieu une manifestation fut le plus désastreux, et son nom porte encore les accents de la tragédie. Sharpeville. Sharpeville était un petit township à une 50aine de kilomètres au sud de Johannesburg. Les militants du PAC y avaient fait un excellent travail d'organisation. En début d'après-midi, une foule de plusieurs milliers de personnes entoura le commissariat de police. Les manifestants étaient contrôlés et sans armes. Les forces de police, qui comptaient 75 hommes, se sentirent dépassées par le nombre et paniquèrent. Personne n'entendit de coups de semonce ni l'ordre de tirer. Mais brusquement, les policiers ouvrirent le feu sur la foule et ils continuèrent à tirer alors qu'elle s'enfuyait effrayée. Quand la place fut dégagée, 69 Africains étaient morts. La plupart touchés dans le dos pendant leur fuite. Plus de 700 coups de feu avaient été tirés dans la foule, en blessant 400 personnes, dont des dizaines de femmes et d'enfants. C'était un massacre. Et le lendemain, en première page, les photos publiées dans la presse du monde entier en montrèrent la sauvagerie. Les coups de feu de Sharpeville entraînèrent une agitation dans tout le pays et une crise gouvernementale. Des protestations indignées arrivèrent du monde entier, y compris du département d'État américain. Elles condamnaient le gouvernement pour la fusillade et exigeaient qu'il prenne des mesures pour réaliser l'égalité raciale. Le gouvernement affirma que Sharpeville était le résultat d'une conspiration communiste. Le massacre de Sharpeville créa une situation nouvelle dans le pays. Malgré l'amateurisme et l'opportunisme de leurs responsables, les militants de base du PAC firent preuve d'un grand courage et d'une grande force d'âme au cours des manifestations de Sharpeville et de Langa. En une seule journée, ils étaient passés au premier rang de la lutte et Robert Sobukwe était salué dans le pays et à l'extérieur comme le sauveur du mouvement de libération. À l'ANC, nous dûmes faire de rapides adaptations exigées par cette nouvelle situation. Quelques-uns d'entre nous, Walter Sisulu, Douma Nokwe, Joe Slovo et moi, Nous sommes réunis pendant toute une nuit à Johannesburg pour préparer une réponse. Le 26 mars, à Pretoria, le chef Luthuli brûla publiquement son passe et appela les autres à en faire autant. Il annonça que le 28 mars serait une journée de grève à domicile et une journée nationale de deuil et de protestation contre les atrocités de Sharpeville. À Orlando, Duma Nokwe et moi, nous brûlâmes nos passes devant des centaines de gens et des dizaines de photographes. Deux jours plus tard, le 28 mars, le pays répondit de façon magnifique, car plusieurs centaines de milliers d'Africains obéirent au chef Luthuli. Seule une véritable organisation de masse pouvait coordonner de telles activités, et c'est ce que fit l'ANC. Au Cap, une foule de 50 000 personnes se rassembla dans le township de Langa pour protester contre la fusillade. Des émeutes éclatèrent dans beaucoup d'endroits. Le gouvernement décréta l'état d'urgence, suspendit l'habeas corpus et se donna des pouvoirs exceptionnels pour agir contre toute forme de subversion. L'Afrique du Sud était maintenant sous la loi martiale. Le 30 mars, à 1h30 du matin, j'ai été réveillé par des coups violents frappés contre ma porte. La signature très nette de la police. Le moment est arrivé, me suis-je dit en ouvrant et en découvrant une demi-douzaine d'hommes de la police de sécurité armés. Ils ont tout mis sans dessus-dessous dans la maison en prenant chaque morceau de papier qu'ils trouvaient. Ils m'ont arrêté sans mandat et sans me laisser la possibilité d'appeler mon avocat. Ils ont refusé de dire à ma femme où ils m'emmenaient. J'ai simplement fait un signe de tête à Winnie. Ce n'était pas le moment des paroles de réconfort. 30 minutes plus tard, nous sommes arrivés au commissariat de Newsland, que je connaissais bien parce que j'y étais venu souvent voir des clients. Il se trouvait à Sophiatown, ou plutôt ce qu'il en restait, car de l'ancien township très animé ne subsistait plus que des ruines de maisons détruites au bulldozer et des terrains vagues. À l'intérieur, j'ai retrouvé beaucoup de collègues qu'on avait tirés du lit, comme moi, et au cours de la nuit, il en est arrivé d'autres. Au matin, nous étions 40. On nous a entassés dans une petite cour avec le ciel comme toit et une ampoule nue pour nous éclairer. Un espace si petit et si humide que nous sommes restés debout toute la nuit. À 7h15, on nous a mis dans une cellule minuscule, avec un seul trou dans le sol qu'on ne pouvait laver que de l'extérieur. On ne nous a donné ni couverture, ni matelas, ni nourriture, ni papier de toilette. Le trou se bouchait régulièrement et dégageait une puanteur insupportable. À 18h, nous avons reçu des matelas et des couvertures. Je ne pense pas que les mots peuvent rendre compte de l'état de crasse de cette literie. Les couvertures recouvertes de vomissures et de sang séché étaient infestées de poux, de vermine et de cafards, et dégageait une puanteur qui faisait concurrence à celle de la tinette. Vers minuit, on nous a dit qu'on allait nous appeler, mais sans nous faire savoir pourquoi. Certains souriaient car ils espéraient être libérés. D'autres ne se faisaient pas d'illusions. On m'a appelé le premier et on m'a conduit à la porte de la prison où on m'a libéré devant un groupe de policiers. Mais avant que j'aie pu faire un pas, un officier a crié. « Votre nom ?»« Mandela, ai-je dit. »« Nelson Mandela, a-t-il répondu, je vous arrête en fonction des pouvoirs qui me sont conférés par l'état d'urgence. » Nous n'allions pas du tout être libérés, mais arrêtés de nouveau d'après ce que nous découvrions comme étant l'état d'urgence. Nous avons tous connu le même sort, tour à tour. Le lendemain, j'ai été convoqué dans le bureau du commandant, où j'ai retrouvé Robert Recha, arrêté également et que le commandant interrogeait. On est venu nous prévenir que nous devions partir pour assister au procès de trahison à Pretoria. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer, mais après 36 heures de mauvais traitement et la déclaration de l'état d'urgence, le gouvernement jugeait encore utile de nous ramener à Pretoria afin de poursuivre ce procès désespéré et maintenant apparemment dépassé. Mais après être sortis de l'enceinte du tribunal ce soir-là, nous avons été de nouveau arrêtés. Or, dans son excès de zèle et son manque d'organisation habituelle, la police fit une erreur comique. Un des accusés, Wilton Mkwai, un très ancien responsable syndical et membre de l'ANC, avait été séparé des autres, et quand il s'approcha de la porte, il vit l'agitation autour de ses compagnons qu'on arrêtait. Il demanda à un policier ce qui se passait. Ce dernier lui ordonna de s'en aller, et Wilton lui expliqua qu'il était un des accusés. Le policier le traita de menteur en le menaçant de l'arrêter pour obstruction à la justice, et il lui ordonna de nouveau de s'en aller. Wilton haussa les épaules, franchit la porte, et ce fut la dernière fois qu'on le vit dans un tribunal. Il passa dans la clandestinité pendant les 2 mois suivants, puis il quitta le pays en fraude pour réapparaître comme représentant étranger du Congrès des syndicats. Cette nuit-là, des détenus venant d'autres régions du Transvaal nous ont rejoints. La rafle nationale de la police avait conduit en détention sans procès plus de 2000 personnes. Ces hommes et ces femmes appartenaient à toutes les races et à tous les partis anti-apartheid. On avait rappelé des soldats et des unités de l'armée avaient été mobilisées et disposées dans des zones stratégiques du pays. Le 8 avril, l'ANC et le PAC ont été déclarés illégaux d'après la loi sur l'interdiction du communisme. Du jour au lendemain, être membre de l'ANC était devenu une infraction passible d'une peine de prison et d'une amende. La lutte venait d'entrer dans une nouvelle phase. Nous étions tous des hors-la-loi. Pendant la durée de l'état d'urgence, nous sommes restés dans la prison de Pretoria locale, dans des conditions aussi mauvaises qu'à Newlands. Des groupes de 5 prisonniers étaient entassés dans des cellules de 2 mètres sur 3, très sales, avec peu de lumière et encore moins d'aération. Nous n'avions qu'un seau en guise de toilette avec un couvercle non attaché et des couvertures infestées de vermine. Nous n'étions autorisés à sortir qu'une heure sur 24. Nous resterions à Pretoria locale pour l'avenir immédiat. Nous partions le matin pour le procès et nous revenions à la prison l'après-midi. Le 25 avril, la veille de la reprise du procès, ici Meisels nous réunit pour que nous parlions des graves conséquences de l'état d'urgence sur la conduite du procès. Les consultations entre les accusés et les avocats étaient devenues pratiquement impossibles. Nos avocats, qui habitaient Johannesburg, avaient des difficultés à nous voir en prison et se trouvaient dans l'impossibilité d'organiser notre défense. Nos défenseurs nous proposèrent de se retirer en signe de protestation. Meisels nous expliqua les graves implications d'un tel retrait et les conséquences si nous assurions nous-mêmes notre défense. Nous avons discuté entre nous de la proposition et chacun des 29 accusés, Wilton Mkwai n'était plus là, donna son opinion. La décision fut prise à l'unanimité. Douma, Nokwe et moi-même, nous remplacerions nos avocats. J'étais en faveur de ce geste spectaculaire car il mettait en lumière l'iniquité de l'état d'urgence. Notre stratégie était simple et défensive. Faire durer le procès jusqu'à ce que l'état de siège soit levé. En pratique, cette stratégie devint assez comique. D'après la loi, chacun de nous avait maintenant le droit d'assurer sa propre défense ainsi que d'appeler chaque autre accusé comme témoin. Et chaque accusé avait le droit de procéder à un contre-interrogatoire avec chaque témoin. Nous étions classés par ordre alphabétique et l'accusé numéro 1 était Farid Adams du Congrès indien de la jeunesse du Transvaal. Farid commença en appelant l'accusé numéro 2, Hélène Joseph, comme premier témoin. Après avoir été interrogée par Farid, Hélène dut répondre aux questions des 27 autres co-accusés. Ensuite, l'accusation procéda à un contre-interrogatoire et l'accusé numéro 1 la réinterrogea. Adams appela alors l'accusé numéro 3, et ainsi de suite. Et toute la procédure se démultiplia ainsi jusqu'à ce que le dernier accusé soit appelé. À cette allure, le procès durerait jusqu'à la fin du millénaire. Après l'interrogatoire et le contre-interrogatoire d'Hélène Joseph, ce fut au tour de l'accusé numéro 3, Ahmed Katrata. C'est pendant la déposition du second témoin de Cathy, l'accusé numéro 4, Stanley Lolan, membre de la direction du Colored People's Congress, que le premier ministre Fairford annonça qu'on lèverait bientôt l'état d'urgence. Le gouvernement n'avait jamais eu l'intention de le faire durer indéfiniment et il croyait qu'il avait réussi à étouffer la lutte de libération. À partir de ce moment-là, nos avocats revinrent, au grand soulagement de tout le monde. Mais nous restâmes encore en prison pendant quelques semaines. Nous avions été emprisonnés et nous nous étions passés de nos avocats pendant plus de 5 mois.